Alors, si vous voulez prendre avec moi 2 Corinthiens, chapitre 6, et versets 11 à 18. Alors, il est écrit ici, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors le titre de mon message, c'est « Étroit ou large, large et étroit ». Alors j'ai lu, vous savez, il y a plein de forums sur Internet. Pour ceux qui vont sur Internet, ils tapent quelque chose, ils font une recherche, ils tombent sur un forum. Et là, il y a quelqu'un qui pose une question et puis quelqu'un qui répond. Souvent, il y a des gens qui en savent un peu plus que les autres. Donc, ça permet de soi-même avancer. Hein. Et j'ai lu sur Internet la question d'une personne qui se demandait si c'était mieux d'avoir des pneus larges ou des pneus étroits pour faire une longue route. Et alors, la réponse qui suivait, moi je me suis jamais posé cette question, hein. J'imagine vous non plus, j'en sais rien. Si ? Ah bon, formidable. Quelqu'un a répondu. Donc juste en dessous, la réponse c'était que le mieux c'était d'avoir des pneus plus ou moins larges et étroits. Au moins, avec une réponse comme ça, c'est bien clair. On est sûr d'avoir bon à chaque coup. Et j'imagine que vous avez remarqué que dans les milieux chrétiens, nous cloisonnons souvent les gens et nous disons avec des termes, hein, large ou étroit. On dit par exemple, « Oh, celui-là, il est large, vraiment, oh là là, hein, large comme une autoroute, hein, ça veut dire ben, voilà, libéral ou voilà, très très large. Hein. » Ou bien « Oh, celui-là, il est étroit, il est vraiment fermé d'esprit, hein, vraiment difficile. » Mais pourtant, la Bible nous enseigne qu'il faut être large et étroit, les deux à la fois. Merveilleux, hein ? On peut être les deux à la fois. Et jamais l'un sans l'autre. Parce que c'est souvent quand nous avons l'un sans l'autre qu'alors nous sommes taxés de large ou d'étroit. Alors, eh bien, on reprend ce matin la suite de 2 Corinthiens. Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, hein, qui n'étaient pas forcément là dans les fois précédentes, hein, donc, pour rappel, l'apôtre Paul était attaqué dans son ministère. Hein, il y avait des personnes qui lui en voulaient. Certains remettaient en question son appel, son apostolat. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul avait écrit une lettre, ou plusieurs même, sévères, hein, dans laquelle il les reprenait sur leurs péchés, il remettait de l'ordre dans l'église de Corinthe. Alors certainement, les frères l'avaient bien pris, et peut-être des faux frères, on ne sait pas, hein, peut-être des frères qui ne marchaient pas. En tout cas, certains ne l'avaient pas du tout bien pris, et s'étaient mis à attaquer l'apôtre Paul. Alors dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, il ouvre son cœur. Il s'explique en quelque sorte, hein, et il leur dit mais je vous aime, si j'ai parlé c'est parce que je vous aime. 2 Corinthiens 6 versets 11 à 13, il dit: notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi, vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. Et là, Paul parle de largesse et d'étroitesse, hein, et il commence par dire, voilà, notre bouche s'est ouverte pour vous, nous avons parlé, Paul a parlé par plusieurs lettres, hein, il les a exhortés, il les a stimulés, encouragés dans la foi, mais aussi il les a repris, hein, et on le lit vraiment dans cette première épître aux Corinthiens. Mais c'est par amour, sa bouche s'est ouverte parce qu'il aimait les Corinthiens, il aimait ses frères. Alors, eh bien, voilà, son cœur s'est élargi pour eux. Il dit, vous n'y êtes point à l'étroit. Et c'est vrai que les Corinthiens étaient continuellement dans ses pensées. Il y pensait souvent, il priait pour eux, il leur écrivait, il les aimait parce qu'il voulait qu'ils deviennent des frères et sœurs matures, stables, à l'image de Jésus-Christ. Dans la première épître qu'il adresse, Paul va dire par exemple, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Mes enfants bien-aimés. Et le terme qu'il emploie ici, c'est « agapetos ». Ça signifie « aimer, estimer, cher, favori, digne d'amour ». Voilà, il est considéré comme ses enfants, mais ses enfants chers, ceux qui serraient dans son cœur, qu'il aimait vraiment. Ailleurs, il va réemployer cette expression, il va dire « c'est pourquoi mes enfants bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Ou bien il va leur dire « ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur ». Et donc, si sa bouche s'est ouverte, c'est qu'il avait un grand amour pour les Corinthiens. Un petit peu plus loin, dans cette deuxième épître, il va leur dire « pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait ». En fait, il est en train de parler, il vide son cœur, hein, et dit « Est-ce que vous pensez que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. Dieu le sait combien je vous aime. » Il avait un cœur qui débordait d'amour pour les Corinthiens. Et il faut se remémorer que dans Actes 18, quand Paul arrive à Corinthe, il va se donner tout entier à la parole, il va prêcher dans cette ville de Corinthe, et Dieu va lui dire « Ne crains pas. Mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc, Paul va rester un an et demi dans cette ville de Corinthe. Et il a eu du temps pour s'attacher à eux. Vraiment, il s'est lié d'amour et d'affection avec ces Corinthiens. Et puis, l'église de Corinthe, elle s'est étoffée, elle a commencé à grandir. Et lui, il les a aimés. Voilà, vous n'y êtes point à l'étroit. Vous remplissez mon cœur. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai écrit. C'est parce que je vous aime. Mais dans la suite de notre passage ce matin, il va leur dire verset 13. Regardez. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Autrement dit, soyez large, très large au niveau de l'amour. Aimez-moi et aimez-vous les uns les autres. Et s'il y a un domaine où Dieu veut qu'on soit très large, c'est en amour. Alors là, oui, Dieu veut qu'on soit large. Dans la manifestation de notre amour, notre cœur doit s'élargir sans cesse pour les autres. Et on les inclut, hein, on les fait rentrer dans notre cœur. On ne peut pas aimer Dieu et rester étroit de cœur vis-à-vis des autres. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas plaire à Dieu si on reste étroit de cœur. On ne peut pas être dans la même église et ne plus se parler ou ne pas se parler. C'est pas possible, ça. Est-ce qu'on manifeste l'amour de Dieu sans même se dire bonjour et en s'évitant ? C'est impossible. Aimer Dieu, c'est aussi aimer celui qui est fait à l'image de Dieu. Hein. C'est ce que dit Jean. Celui qui aime Dieu, il aime son frère. Il ne peut pas en être autrement. Et Dieu nous veut large, très large en amour. Il a dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous vous aimez sincèrement, si vous vous pardonnez, si vous passez au-dessus des petites choses qui grincent et vous renouvelez votre amour, alors, eh bien, à l'extérieur, ils verront que vous êtes des enfants de Dieu. » Et Dieu nous pousse à nous aimer les uns les autres. Parce qu'on est une même famille. Combien ça me déchirerait le cœur si deux de mes enfants ne se parlaient plus du tout. Si, heureusement, parfois ils ne se parlent plus, hein, mais ça dure une heure. Et puis voilà, et on recommence et on joue encore ensemble. Et ils s'aiment, hein, ils s'aiment vraiment. Et on le voit quand ils sont séparés. Alors là, ils sont pressés de revenir ensemble. Hein. Eh bien voilà, nous on est la famille de Dieu. Dieu est notre Père. Et il faut qu'on s'aime. Et même si on ne se parle plus pendant une heure, ça doit durer qu'une heure. Et on doit revenir les uns vers les autres. Hein. C'est ce que Dieu veut. Élargir son cœur. Élargir continuellement son cœur. Ne pas laisser une toute petite place hein, pour nos frères et sœurs dans notre cœur. Paul, lui, il n'a fait que élargir son cœur à l'égard des Corinthiens. Il a mis en pratique ce que Dieu lui disait. Il les a servis pendant un an et demi. Il les a nourris spirituellement, il les a enseignés. Quand il les a quittés, il leur demandait des nouvelles. Il cherchait à savoir comment ils allaient. Il se souciait d'eux. Et dès qu'il apprend qu'ils ne vont pas bien, il a le cœur déchiré. Alors il leur écrit une lettre. Il les exhorte. Il leur dit, mais ne faites plus ça, faites ceci. Donc il leur donne des exhortations pour leur âme, parce qu'il voulait vraiment qu'ils soient, voilà, vivants, joyeux, dans le Seigneur. Est-ce que nous serions ou nous sommes étroits de cœur vis-à-vis de nos frères et sœurs? Parfois on se dit, oh, celui-là, je ne l'aime pas. Hein. Ou celle-là, vraiment, je n'ai pas envie de lui parler. Ou on ne le dit pas forcément, mais on le garde au fond de soi-même. Et après, dans les faits, eh ben, c'est ce qui se passe. On ne parle pas. On ne cherche pas à aimer. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît au Seigneur? Est-ce que c'est possible d'obéir au commandement du Seigneur en faisant le tri? En disant, ceux-là, je les aime. Et puis là, non. Hein, j'aime moins, donc j'évite. Le Seigneur, il aime chacun de ses enfants. Chacun d'entre nous. Et il ne regarde pas au fait qu'on a encore du chemin à faire, hein. Au niveau de la sanctification, au niveau de la transformation, au niveau de la sainteté, il y a encore du chemin. Mais il nous aime chacun, il nous aime là où nous sommes. Et il veut que nous nous aimions les uns les autres. Alors il faut élargir son cœur, ne pas se complaire dans une étroitesse qui est coupable. Qu'on puisse témoigner de nous et nous voir comme des vrais disciples de Jésus. Et je vais aller plus loin. En disant que Dieu ne nous demande pas simplement d'aimer nos frères et sœurs, mais d'aimer notre prochain. D'aimer aussi notre prochain, c'est ce qu'il dit dans l'Évangile. C'est son commandement. Et souvent, on peut être quand même étroit vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de l'extérieur, à l'égard de celui qui est l'inconnu, celui qui est l'étranger. Alors que si on regarde Jésus, notre maître, lui, il n'a pas cessé d'aimer, il n'a pas cessé d'aider, de faire grâce, de s'approcher de l'étranger, de l'inconnu, de celui qui était rejeté, de celui dont personne ne voulait, des veuves, des orphelins. Et souvent, notre amour, il se résume à voilà, un ensemble de personnes. Allez, 20 personnes, 25, 30 personnes, ce sont nos amis, ce sont notre famille, et puis... quelques-uns peut-être dans notre église, et puis voilà. Et on se contente finalement de ça. Et on se dit, voilà, j'aime comme Dieu aime, mais Dieu est mort pour tous. Il est mort pour tous, et lui, il aime tous. Il aime tous les hommes. Heureusement que Jésus n'a pas eu le même amour quand il était sur la terre. Vous imaginez s'il aurait aimé 30 personnes? Il serait mort pour 30 personnes? Non, il est mort pour tous. Il les a tous aimés. Dans Éphésiens, on lit que Dieu veut que nous connaissions avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Il dit qu'il surpasse toute connaissance. Et on peut dire que le cœur de Dieu s'est élargi pour englober toute l'humanité. Il a aimé toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il est mort pour tous. Et Dieu aime tous, et tous, pas d'une manière globale, mais individuellement. Il aime chaque homme. Et il nous aime individuellement aussi. Comment nous, on pourrait en rester à 20, 30, 40 personnes, et puis c'est tout, on s'arrête là, et on ne va pas plus loin? Dieu veut au contraire qu'on déborde hein, d'amour, on l'a vu avec cette petite illustration pour les enfants, aimer, et Dieu multiplie et renouvelle et donne encore plus d'amour. On sait que beaucoup aiment l'épître de Jacques, Parce que Jacques justifie justement le zèle hein, par les œuvres. Hein. Celui qui est à la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Mais il faut comprendre aussi l'épître de Jacques. Il est en train de s'adresser à des juifs qui sont chrétiens. Ils sont sauvés. Ils n'ont pas besoin de recevoir le salut en Jésus-Christ. Mais par contre, Jacques leur dit, si vous êtes enfants de Dieu et que vous n'aimez pas autour de vous, mais où on voit l'amour de Dieu ? Alors il parle de quelqu'un, voilà, hein, une question de place, du riche, du pauvre, quelqu'un qu'on met à l'avant, quelqu'un qu'on met à l'arrière. Et voilà, il vient leur dire, mais c'est quoi ça ? Ça fait de la peine quand quelqu'un rentre, s'assoit et personne ne lui parle. Personne. Ça déchire le cœur, ça. L'amour de Jésus. Ah, c'est vrai, parfois les gens ne sont pas toujours habillés comme on s'habillerait nous-mêmes. Hein ? Et parfois, par l'extérieur, on juge. Mais Dieu veut qu'on aime. Dieu veut qu'on... Voilà, on adresse la parole, on fasse un pas, on manifeste son amour. Il a aimé tout le monde. Il a accueilli tout le monde. Il veut qu'on accueille tout le monde, qu'on aime tout le monde. Un christianisme sans œuvre, c'est un christianisme qui est mort. Alors on peut être content d'avoir la Bible, d'avoir la saine doctrine, la parole de Dieu, la serrer dans notre cœur. Mais si on n'aime pas, ben on est comme le scribe, comme le pharisien qui passe à côté du samaritain et qui n'a aucun égard à la personne qui est en besoin, qui souffre, qui a besoin qu'on la relève. Élargissez votre cœur, dit Paul. Élargissez votre cœur. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer. Et si on marche par l'esprit, alors on va aimer. On va aimer nos frères et sœurs, sans laisser quelqu'un de côté pour compte. Laisser pour compte. Et on va aimer l'étranger, on va aimer l'orphelin, on va aimer la veuve. Qu'elle soit dehors ou qu'elle soit assise parmi nous. Dieu veut qu'on soit large, très large. Et puis il enchaîne sur un autre sujet. Regardez versets 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et on peut continuer un tout petit peu. On continue. Regardez chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et puis, on continue encore un petit peu. Et Paul, là, il reprend soudain le même sujet que nous venons de traiter auparavant, c'est-à-dire sur la largesse de cœur. Regardez le verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré de profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Et on voit que Paul a sciemment inséré entre deux passages qui nous parlent de la largesse de cœur, la largesse d'amour envers eux, hein, sa largesse d'amour, hein, un passage qui nous parle du contraire, du contraire. Dieu veut large, 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 mais pas dans tous les domaines. Il y a des domaines où il nous veut étroit, très étroit. Il y a les deux. Et Paul ne voulait pas que les Corinthiens croient qu'il faut être large, large, large à tout et tout accepter. Et voilà. Non, 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 non. Parfois, il faut être large en amour. Et d'autres fois, il faut être étroit, très étroit, il faut être intransigeant. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et le terme qu'il emploie ici, pour les infidèles, c'est apistos. en grec. Donc a, c'est le a privatif. Pistos, c'est la foi. En fait, c'est les hommes sans foi. Les hommes sans Dieu, en fait. Hein? Ceux qui ne sont pas vraiment à Jésus-Christ. Ils sont des sans foi. Ils n'ont pas la vraie foi. Ils ne le connaissent pas personnellement. Et s'il faut élargir notre cœur pour aimer notre prochain, il faut aussi, par contre, être étroit quand il s'agit de se lier d'une manière ou d'une autre sous un joug étranger. Vous savez ce que c'est qu'un joug, hein? Donc la pièce de bois avec laquelle on tire, hein, pour labourer, par exemple. Hein. Et il y a deux passages dans la loi de Moïse qui viennent éclairer sur cette interdiction formelle de Dieu. On va les lire ensemble. C'est Deutéronome 22, 9 à 11. Il dit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Et on va prendre un deuxième passage parallèle, c'est Lévitique 19, 19. Il dit « Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point les bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ avec deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. » Pourquoi Dieu parle-t-il de ces choses dans sa loi, dans la loi de Moïse? Il y a un aspect pratique, mais il y a aussi et surtout un aspect qui est spirituel. Dieu veut nous enseigner. Alors la première chose, hein, signification, elle est très claire. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Donc tu ne vas pas faire des mélanges qui sont contre nature. Pas de mélange contre nature. Et le parallèle est clair. Dieu ne veut pas d'union illicite, en fait, entre fidèle et infidèle, entre quelqu'un qui aime et qui connaît le Seigneur et puis quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, qui n'a pas envie de le connaître et de vivre pour lui. Parce qu'en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. En Christ, maintenant, nous sommes spirituels. Pourquoi ? Parce que nous sommes en communion avec l'Esprit. En communion avec lui, alors, eh bien, nous sommes des êtres vraiment spirituels par Dieu, par le Saint-Esprit. Et donc, s'unir avec quelqu'un qui est loin du péché, quelqu'un qui est loin de Dieu, c'est une union qui est contre nature. Ce n'est plus naturel. Et c'est se placer sous un joug étranger. On est avec quelqu'un sous un joug étranger. Le joug étranger, dans sa définition, c'est l'idée d'un joug qui est différent ou déséquilibré. Déséquilibré. C'est être attelé de façon inégale. Comme par exemple quand vous mettez un bœuf et un âne. Le bœuf veut tirer, voilà. Et j'imagine l'âne, mais où il m'emmène lui, et plutôt envie de freiner des quatre pieds. Hein, quatre, je sais pas, on ne met pas des fers, je pense, aux ânes. Hein. Ça, c'est un joug qui est déséquilibré. Et c'est sûr que quand on aime le Seigneur, et qu'on veut marcher avec lui, et puis que de l'autre côté ça tire de l'autre dans l'autre sens, à la fin on se sent pas bien du tout. On est déchiré à l'intérieur. Hein. C'est vraiment une souffrance. On veut tirer dans un sens et ça nous tire vers l'autre. Et dans nos fréquentations en vue d'un mariage, on doit être étroit, très étroit, très très étroit. Car quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune. C'est pas la même vie. C'est pas les mêmes aspirations. Pas la même destinée. Pas les mêmes intérêts. Et forcément, à un moment, il y a des souffrances, il y a des tiraillements. Deuxième signification. Ça concerne les semences. Il dit « Tu n'ensemenceras point ton champ avec deux espèces de semences ». Et c'est toujours tentant de vouloir faire des compromis et de vouloir mélanger. Pour comprendre ce que ça signifie, on peut prendre l'évangile de Matthieu, par exemple, Matthieu 13. Et là, on a l'exemple d'un mélange de semences. Si vous vous souvenez, c'est la parole de l'ivraie et du blé. Hein? Voilà. Quelqu'un jette du blé, puis un ennemi vint et jette de l'ivraie, et puis les deux poussent ensemble, et on a là le bon grain, et on a là le mauvais grain. Et il nous est clairement dit, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et on voit ici un domaine où on ne peut pas, on ne doit pas être large. Là, il faut être étroit. Dieu nous veut très étroit. Que le diable essaye de corrompre le champ ? Oui, c'est l'ennemi de Dieu. Il le fera, il continuera à le faire. Mais que nous, eh bien, on soit préservés de faire une démarche pour unir ce qui n'est pas, ne peut pas aller ensemble. Mélanger deux espèces de semences. Et il faut bien comprendre qu'il y a une œuvre diabolique dans l'idée de l'union large, large, large. C'est diabolique. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il? Le blé qui adore le vrai Dieu en esprit et en vérité, et puis de l'autre côté l'ivraie qui adore au travers des idoles. Non, c'est pas compatible. Et on sait ce qu'il y a derrière les idoles. Hein. La Bible est très claire à ce sujet. C'est le diable, c'est des démons. C'est pourquoi il nous est dit, tu n'ensemenceras point. Garde-toi de faire une démarche dans ce sens. Dans le passage parallèle de Deutéronome, il nous est dit de ne pas faire cela, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Apparemment, en Orient, il arrivait qu'on jette des semences au milieu des vignes. Mais Dieu dit, voilà, si vous faites cela, eh bien, vous allez tout perdre. Vous n'aurez rien à la fin. À la fois le produit des semences, mais aussi le produit de la vigne, vous aurez tout perdu. Quel est l'enseignement qu'on peut en tirer, que nous pouvons tirer? C'est qu'une union qui est comme cela disparate, hein, un mélange d'ivraie, de blé, et puis voilà, on pense que c'est bien, ça finit par pomper les forces vives du peuple de Dieu. On se dit, oh, mais c'est mieux, peut-être je vais réussir, je vais les gagner, mais ça finit par pomper la vie. Ça pompe la vie. Il dit, de peur que tu ne jouisses ni de l'un ni de l'autre, tu auras tout perdu. Et quand il s'agit de faire un grand melting pot et de tout mélanger, toutes les religions ou tout le christianisme, ou malheureusement même dans le christianisme il y a de l'ivraie, et bien là Dieu dit non, là il ne faut pas être large, là il faut être étroit. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'enseigne. Troisième signification, ça concerne le vêtement que l'on porte. Et il dit, tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Et là, on va voir la justification de Dieu. De quoi sommes-nous revêtus? Quel est le vêtement qui plaît à Dieu? Dans le passage parallèle, on lit « Tu ne porteras point un vêtement tissé de deux espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très commun, 30% de coton, 60% de ceci, même du lin, et voilà, hein, on a trouvé des avantages à cela. Mais si Dieu interdisait ça dans la loi, alors d'abord il y avait un enseignement pratique, c'est clair que le lin est très agréable hein, à porter quand on a chaud, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu de lin même dans celle-là. J'en sais rien. Mais le lin a des avantages au niveau du corps. Hein. Mais Dieu est surtout en train de nous donner un enseignement qui est spirituel, là. Le lin, c'est une matière qu'on connaît depuis longtemps en France. En fait, c'est de là dont vient le mot linge. Le linge, en fait, c'était de la toile de lin à l'origine. Mais en Orient, on utilise le lin depuis encore bien plus longtemps. Et notamment, eh bien, on voit dans la Bible, les souverains sacrificateurs, ils s'habillaient, ils devaient être entièrement revêtus de lin. Pourquoi? Parce que c'était impératif pour pénétrer dans le sanctuaire, pénétrer dans la présence de Dieu. S'ils n'avaient pas ce vêtement de lin, ils ne pouvaient pas pénétrer. Il est dit dans Lévitique, le sacrificateur se revêtira de la tunique sacrée de lin. Il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Et donc le lin, c'était le seul vêtement acceptable pour pénétrer dans la présence de Dieu. On ne pouvait pas faire autrement. C'était vraiment le vêtement que Dieu donnait aux sacrificateurs. pour qu'il puisse entrer dans sa présence entièrement de l'un. Quand on traverse la Bible et on arrive dans l'Apocalypse, à la fin, on voit que le lin est aussi le vêtement de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus est vêtue de lin. Hein, il est dit d'un, donc il est parlé de l'épouse, de l'agneau qui s'est préparé et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Et le fin lin étant, littéralement, hein, donc il dit les œuvres justes des saints ou les justices des saints. C'est beau l'expression, les justices des saints. Et on a là une image de cette justification que Dieu nous donne. Il nous donne ce vêtement de fin lin. C'est le vêtement du Seigneur, c'est le vêtement qu'il nous donne par sa grâce, c'est toute sa justice, toute sa justification qu'il nous accorde par sa grâce. Et il n'y a que ça qui nous permet d'être dignes dans sa présence. Personne ne peut entrer dans la présence du Seigneur et lui plaire s'il n'est pas entièrement revêtu de ce vêtement pur, de ce vêtement éclatant, de fin lin. Quand on repart dans le livre d'Ézéchiel, il y a une prophétie qui concerne la reconstruction du temple. Et dans cette prophétie, je vous la lis, elle est courte. Il est dit « Lorsque les sacrificateurs franchiront les portes du parvis intérieur, ils se revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. » quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Et donc, on retrouve cette mention du lin, mais avec l'ajout, ils n'auront rien de laine. Aucune laine. Hein? Rien qui soit fait de laine. Et donc, la laine n'était pas permise, et n'est pas permise, pour entrer dans la présence de Dieu. On se souvient aussi de ce qu'on a lu. « Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. » Et si le lin, c'est une image du vêtement de Dieu, hein, de la justice de Christ, de ce qu'il nous donne, ben celui qui veut qu'on porte pour entrer dans sa présence, la laine, eh bien ça représente ce qui ne vient pas de lui. On va essayer de mettre ce qui ne vient pas de lui pour entrer dans sa présence? Non, on ne peut pas. On doit tout recevoir de lui. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'approcher de Dieu. Tisser diverses espèces de fils, c'est vouloir mêler ce qui vient de Dieu et ce qui est charnel, ce qui est humain. C'est vouloir mélanger, par exemple, nos œuvres charnelles à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Ça, c'est pas acceptable. Comme si on pouvait tisser ce qui vient de nous et ce qui vient de lui. Le seul vêtement acceptable, c'est celui qu'il nous donne. Tisser diverses espèces de fils, c'est vouloir mélanger, par exemple, la vérité et de l'erreur. C'est pas acceptable, c'est pas possible. C'est mettre, par exemple, les Écritures en avant et puis mettre des pensées humaines. Par exemple, mettre la tradition des hommes. C'est pas acceptable, ça. C'est pas possible. Tisser diverses espèces de fils, c'est vouloir mélanger la vie pure du Fils de Dieu avec notre vie souillée, notre vie de pécheur. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas mélanger les deux. Et il ne faut pas croire que juste un peu de lin dans notre robe suffit pour pouvoir nous présenter devant Dieu. Non, il faut qu'il n'y ait rien de laine et que du lin. Et donc, voilà, je rejette tout ce qui vient de moi, tout ce qui vient de ma chair, toutes mes mauvaises œuvres, tout mon péché, toute l'erreur, et je veux marcher dans ce qui vient de Dieu, dans la justice, la sainteté de Christ. Alors, eh bien, Dieu veut être étroit, très étroit, en ce qui concerne notre foi, notre vie. Étroit en ce qui concerne le péché qui vient corrompre. Étroit en ce qui concerne l'erreur. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Rien. Il n'y a rien. Rien de commun, rien qui les rapproche. Rien qui pourrait faire qu'on tisse justice et iniquité. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ben rien. Bélial, littéralement, ça signifie le vaurien, l'inutile. Donc généralement, c'était un nom qu'on donnait à ceux qui s'adonnaient au mal, mais c'était aussi un faux dieu, une fausse divinité. Et si on peut y voir une personnification de Satan, quel rapport y a-t-il entre Christ et la personnification du mal? Mais rien. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Rien. On a vu un peu hier soir, hein, depuis l'origine, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Le monde ne veut pas une séparation. Non, le monde veut veut tout mélanger, hein. Il veut un rassemblement, une grande unité. Mais Dieu parle de séparation. Être séparatiste, c'est pas mauvais, hein. Sur certaines choses, c'est nécessaire. De Corinthiens 6, 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et la parole, elle est claire, elle est limpide, hein. Et Dieu nous parle direct, sans mélange, il dit « séparez-vous ». Et le terme qu'il emploie pour « séparer », ça signifie « se démarquer des autres par des frontières, limiter, séparer ». Et donc, parfois, il faut mettre des frontières, jusqu'ici, mais pas au-delà. Dieu veut qu'on soit dans le monde, et il faut rester dans le monde. Si on est juste dans notre bocal ici, ça ne peut pas aller. Il faut rester dans le monde. Mais aussi, il faut savoir dire « jusqu'ici, mais pas au-delà ». Là, non. Là, c'est pas possible. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et donc, Dieu veut qu'on soit large, très très large dans l'amour. Que nous nous aimions, que nous aimions notre prochain. Nous allions vers lui. Et il veut qu'on soit étroit, très étroit, comme il l'est lui-même, vis-à-vis du mal, vis-à-vis de l'erreur, vis-à-vis du mensonge, de la corruption. Alors, eh bien, qu'on ne dise pas simplement de nous « Ah, oh, ils sont étroits » ou « Ah, oh, ils sont larges ». Non, qu'on puisse être large et étroit, les deux à la fois.